C'est avec une merveilleuse précipitation qu'on s'est généralement persuadé que les prophètes savaient tout ce que l'entendement humain est capable de connaître. Et bien que plusieurs endroits de l'Écriture nous fassent voir le plus clairement du monde que les prophètes ignoraient de certaines choses, on aime mieux dire qu'en ces endroits, on n'entend pas soi-même l'Écriture que d'accorder que les prophètes aient ignoré quelques vérités. Ou bien on s'efforce de torturer les paroles de l'Écriture pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Avec ce système, c'en est fait de l'Écriture, car on s'efforcerait vainement de rien en tirer si les choses les plus claires peuvent être considérées comme obscures et inintelligibles ou interprétées d'une façon arbitraire. Quoi de plus clair, par exemple, que l'opinion de Josué et peut-être aussi de celui qui a écrit son histoire sur le mouvement du soleil autour de la terre, l'immobilité de la terre et le soleil arrêté pour un temps dans sa marche. Cependant, plusieurs personnes qui ne veulent pas accorder qu'il puisse accomplir quelques changements dans les cieux interprètent ce passage de façon qu'il ne contient plus en effet rien de semblable. D'autres, qui sont meilleurs philosophes, sachant que la terre se meut et que le soleil au contraire est immobile, c'est-à-dire ne se meut pas autour de la terre, ont employé toute leur force à lire cette doctrine dans l'Écriture, en dépit de l'Écriture elle-même. Et certes, j'admire ces commentateurs. Mais je leur demanderai si nous sommes tenus de croire que le soldat Josué fut un habile astronome, et si ce miracle n'a pu lui être révélé, ou si la lumière du soleil n'a pu rester sur l'horizon plus longtemps que d'ordinaire sans que Josué en sût la cause. Pour moi, je trouve ces deux hypothèses également ridicules, et j'aime mieux penser, je le dis ouvertement, que Josué a ignoré la cause de cette lumière prolongée, et qu'il a cru, comme la foule qui l'environnait, que le soleil accomplissait un mouvement diurne autour de la terre, que ce jour-là il s'était arrêté pendant quelque temps, et que c'était là la cause qui avait prolongé ce jour, sans remarquer qu'à cette époque de l'année, la quantité extraordinaire de glace qui se trouvait dans la région de l'air, voyez Josué chapitre 10 verset 11, pouvait produire une réfraction plus forte que de coutume, ou telle autre circonstance du phénomène qu'il n'est pas de notre sujet de déterminer. C'est ainsi que le signe de la rétrogradation de l'ombre du soleil fut révélé à Isaïe suivant la portée de son esprit, je veux dire expliqué par la rétrogradation du soleil. Car il croyait lui aussi que le soleil se meut et que la terre est immobile, et il n'avait jamais entendu parler, même en songe, des pareils. Et tout ceci ne doit exciter aucun scrupule, car le signe pouvait apparaître et être prédit au roi par Isaïe sans que ce prophète sût la cause véritable de son apparition. J'en dirai autant de la construction de Salomon si elle lui fut effectivement révélée par Dieu. Je veux dire que toutes les mesures du temple lui furent révélées suivant sa portée et ses opinions. Nous ne sommes nullement forcés de croire que Salomon fut mathématicien. Et il nous est parfaitement permis de dire qu'il ignorait le rapport du diamètre à la circonférence du cercle et qu'il croyait, avec le vulgaire des ouvriers, que ce rapport était de 3 à 1. Que s'il est permis de nous objecter ici que nous ne comprenons pas le texte des rois, Livre 1, chapitre 7, verset 23, je ne sais en vérité ce qu'il peut y avoir à comprendre dans l'Écriture, puisqu'en cet endroit, la construction du temple est racontée le plus simplement du monde et d'une façon purement historique. Dira-t-on que l'Écriture a eu d'autres idées que celles qu'elle exprime, et qu'elle n'a pas voulu les manifester par des raisons qui nous sont inconnues? Je déclare que c'est là le renversement complet de l'Écriture. Car chacun pourra en dire exactement autant de tous les passages de l'Écriture. Et tout ce que la perversité humaine peut imaginer d'absurde et de mauvais, il sera permis de le soutenir et de le mettre en pratique sur l'autorité de l'Écriture. Notre sentiment, au contraire, ne recèle aucune impiété. Car Salomon, Isaïe, Josué, etc., quoique prophètes, étaient hommes, et rien d'humain dès lors ne leur était étranger. La révélation cunoale de la destruction future du genre humain fut aussi proportionné à son intelligence, car il croyait que, hors de la Palestine, le reste du monde n'était pas habité. Et les prophètes ont pu ignorer tout cela, et même des choses de plus grandes conséquences, sans dommage pour la piété. Et ils les ont effectivement ignorées, car jamais ils n'ont rien enseigné de particulier sur les attributs divins. Mais leurs opinions sur Dieu ont toujours été celles du vulgaire, et ils ont toujours eu soin d'accommoder leurs révélations aux idées du peuple, comme je l'ai déjà démontré par un grand nombre de témoignages de l'Écriture. On voit donc que ce qui les a fait si célèbres et rendus si recommandables, ce n'est pas tant la sublimité et l'excellence de leur génie que leur force d'âme et leur piété. Adam, le premier à qui Dieu se soit révélé, ignorait son omniprésence, son omniscience, car il voulut se cacher à Dieu, et il s'efforça d'excuser son péché devant Dieu comme il aurait fait devant un homme. Aussi Dieu se révéla à lui suivant la portée de son intelligence, comme s'il n'eût pas existé partout et s'il ignorait le lieu où se cachaient Adam et son péché. Adam entendit en effet, ou crut entendre Dieu qui se promenait dans le jardin, et le cherchait en l'appelant à haute voix, et, témoin de sa honte, lui demandait s'il n'aurait pas mangé du fruit défendu. Tout ce qu'Adam connaissait des attributs de Dieu, c'était donc que Dieu est l'artisan de toutes choses. Dieu se mit aussi à la portée de Caïn en se révélant à lui comme s'il ignorait les actions des hommes. Et Caïn, en effet, n'avait pas besoin pour se repentir de son péché d'une connaissance de Dieu plus sublime. Dieu se révéla aussi à Laban comme Dieu d'Abraham, parce que Laban croyait que chaque nation avait son Dieu particulier. On verra aussi dans la Genèse, chapitre 31, verset 29, qu'Abraham ignorait que Dieu est partout et que sa prescience s'étend à toute chose. Car dès qu'il entendit la sentence portée contre les sodomites, il pria Dieu, avant de l'exécuter, de rechercher s'ils étaient tous dignes de ce châtiment. Voyez Genèse, chapitre 31, verset 29. Peut-être se rencontrera-t-il 50 justes dans cette ville. Et Dieu se révéla à lui tel qu'il en était connu, car il parla ainsi dans l'imagination d'Abraham. Je descendrai maintenant pour voir si leur conduite est d'accord avec la plainte qui est venue jusqu'à moi, et s'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Le témoignage de Dieu sur Abraham ne parle que de son obéissance, de son zèle à encourager ses serviteurs à la justice et au bien. Et il n'y est pas dit qu'Abraham eut des pensées plus sublimes sur Dieu que le reste des hommes. Voyez Genèse, chapitre 18, verset 19. Moïse ne comprit pas non plus très bien que Dieu sait tout et qu'il dirige toutes les actions des hommes par un seul décret. Car quoi que Dieu lui eût dit, Exode chapitre 3 verset 18, que les Israélites lui obéiraient, il en doute cependant et pose à Dieu cette difficulté. Exode chapitre 4 verset 1. Que ferai-je s'ils ne croient pas en moi et s'ils ne m'obéissent pas? Dieu lui avait donc été révélé comme ne prenant point de part aux actions humaines et ne les connaissant pas à l'avance. Il donne à Moïse deux signes et lui dit, Exode, chapitre 4, verset 8, « S'il arrive qu'ils ne croient pas en toi au premier signe, ils te croiront au second. Et si alors même ils ne veulent pas croire, prends de l'eau du fleuve, etc. » Assurément, si quelqu'un veut peser mûrement et sans préjuger ces paroles de Moïse, il reconnaîtra clairement que Moïse pensait de Dieu qu'il est un être qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. Et c'est pour cela qu'il le nomme Yéhovah, mot qui exprime en hébreu ses trois moments de l'existence. Mais qu'il n'a rien enseigné sur sa nature, sinon qu'il est miséricordieux, bienveillant, etc. Et surtout jaloux, comme on peut le voir dans plusieurs passages du Pentateuque. Il croyait aussi que cet être diffère de tous les autres êtres, de telle sorte qu'il ne peut être exprimé par aucune image, ni être vu, non pas tant par l'impossibilité même de la chose qu'à cause de la faiblesse humaine. Sous le rapport de la puissance, il enseignait que Dieu seul la possède en propre. Car quoi qu'il reconnaisse d'autres êtres qui remplissent les fonctions divines, sans aucun doute par l'ordre de Dieu et la mission qu'ils en ont reçue, je veux dire des êtres à qui Dieu a donné l'autorité, le droit et le pouvoir pour diriger les nations, veiller sur elles et en prendre soin, toutefois cet être que tous les autres sont obligés d'honorer est le Dieu suprême, et pour parler le langage des Hébreux, le Dieu des dieux. C'est dans ce sens qu'il dit dans l'Exode, chapitre 15, verset 11, « Qui entre les dieux est semblable à toi, Jéhovah ?» Et de même Jéthro, chapitre 18, verset 11, « C'est alors que j'ai connu que Jéhovah est plus grand que tous les dieux. » C'est-à-dire, je suis forcé de croire, avec Moïse, que Jéhovah est plus grand que tous les autres dieux et qu'il a une puissance singulière. Maintenant, Moïse a-t-il considéré ces êtres qui remplissaient les fonctions divines comme des créatures de Dieu ? On peut en douter. Il n'a rien dit, en effet, que je sache de leur création ni de leur origine. La doctrine qu'il enseigne, la voici en quelques mots. L'être suprême a fait passer ce monde visible, Genèse chapitre 1 verset 2, du chaos à l'ordre, et y a déposé les germes des choses naturelles. Il a, sur toute chose, un droit souverain et une souveraine puissance. Et c'est en vertu de cette puissance et de ce droit qu'il s'est choisi pour lui seul la nation hébraïque, Deutéronome chapitre 15 verset 14-15. Ainsi qu'une certaine contrée de l'univers, laissant les autres nations et les autres contrées aux soins des dieux subordonnés. C'est pourquoi il est le dieu d'Israël, le dieu de Jérusalem, par l'Hypomène, livre 2, chapitre 32, verset 19, et les autres dieux sont les dieux des autres nations. C'est pour cette même raison que les Juifs étaient persuadés que cette région que Dieu avait choisie demandait un culte particulier, très différent de celui des autres peuples, et même qu'elle ne pouvait souffrir le culte des dieux étrangers, exclusivement propres aux régions étrangères. Aussi croyait-on que les nations que le roi d'Assyrie conduisit sur les terres des Juifs étaient déterminées par les lions, à cause de l'ignorance où elles étaient du culte des dieux de ce pays. Rois, livre 2, chapitre 17, versets 25, 26 et suivants. Amenesra pense que c'est aussi sous l'influence de cette opinion que Jacob dit à ses fils, au moment de retourner dans sa patrie, de se préparer à un nouveau culte et d'abandonner celui des dieux étrangers, c'est-à-dire des dieux du pays qu'ils habitaient encore en ce moment. Genèse, chapitre 35, versets 2-3. On peut citer encore David qui, voulant dire à Saül, « Vos persécutions me forcent de vivre hors de la patrie », lui dit, « Vous me chassez de l'héritage de Dieu et m'exilez vers les dieux étrangers ». Samuel, livre 1, chapitre 26, verset 19. Enfin, Moïse croyait que l'être suprême, ou Dieu, avait sa demeure dans les cieux. Deutéronome, chapitre 33, verset 27. Opinion très répandue parmi les païens. Si maintenant nous examinons les révélations de Moïse, nous trouverons qu'elles furent accommodées à ses opinions. Croyant en effet Dieu assujetti aux conditions dont nous avons parlé, la miséricorde, la bonté, etc., Dieu se révèle à lui sous ses attributs et conformément à cette croyance. Voyez Exode, chapitre 34, verset 6-7, où se trouve le récit de l'apparition de Dieu à Moïse, et le Décalogue, verset 4-5. Dans le récit du chapitre 30, verset 18, Moïse demande à Dieu qu'il lui permette de le voir. Or, comme Moïse, ainsi qu'on l'a déjà dit, n'avait dans son cerveau aucune image de Dieu, et que Dieu ne se révèle, cela est démontré ci-dessus, à ses prophètes que selon la disposition de leur imagination, Dieu n'apparut à Moïse sous aucune image. Il en arriva ainsi parce que Moïse était incapable d'en former aucune. Les autres prophètes, en effet, déclarent qu'ils ont vu Dieu. Par exemple, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. Dieu répond donc à Moïse, « Tu ne pourras voir ma face. » Et comme Moïse était persuadé que Dieu était visible, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans sa nature qui l'empêchât de l'être, autrement il n'aurait pas demandé à voir Dieu, Dieu ajouta, car nul mortel ne peut vivre après m'avoir vu. La raison qu'il donne pour ne pas être vu est donc d'accord avec l'opinion que Moïse s'était formée de sa nature. Car il n'est pas dit qu'il y ait contradiction à ce que la nature divine devienne visible, mais seulement que la chose est impossible à cause de la fragilité de l'homme. On peut remarquer encore que Dieu, pour révéler à Moïse que les Israélites, en adorant un veau, s'étaient rendus semblables aux autres nations, lui dit, chapitre 33, verset 2-3, qu'il enverra un ange aux Hébreux, c'est-à-dire un être qui prenne soin d'eux à sa place, ne voulant plus, quant à lui, être au milieu d'eux. De cette façon, en effet, Moïse n'avait plus aucune raison de croire que les Israélites fussent chéris de Dieu plus que les autres nations, que Dieu livre ainsi aux soins de ses anges. C'est ce qui résulte clairement du verset 16 de ce même chapitre. Enfin, comme on croyait alors que Dieu habite dans le ciel, Dieu se révélait en descendant du ciel sur la montagne, et Moïse gravissait la montagne pour parler à Dieu. Précaution parfaitement inutile s'il avait été capable d'imaginer Dieu en tout lieu avec une égale facilité. En général, les Israélites ne savaient presque rien de Dieu, bien qu'il se fût révélé à eux, et ils firent bien voir leur extrême ignorance en transportant à un veau les mêmes honneurs et le même culte qu'ils avaient rendu à Dieu quelques jours auparavant, et en s'imaginant que c'était là les dieux qui les avaient tirés d'Égypte. Et certes, on aurait grand tort de croire que des hommes accoutumés aux superstitions égyptiennes, grossiers, misérables, aient eu quelque idée saine de Dieu, ni que Moïse leur ait enseigné autre chose que la manière de bien vivre, non en philosophe et par la liberté de l'âme, mais en législateur et par la force de la loi. La règle de la vie vertueuse, c'est-à-dire la vie véritable, le culte et l'amour de Dieu, furent donc pour eux une servitude, bien plutôt qu'une vraie liberté, une grâce et un don de Dieu. Il leur ordonne en effet d'aimer Dieu et d'observer la loi, afin de rendre ainsi grâce à Dieu des biens qu'il leur a rendus, la liberté que les Égyptiens leur avaient ravie. Les effrayant par des menaces terribles, s'ils transgressaient ses ordres et leur promettant, s'ils y étaient dociles, une foule de biens. C'était, comme on voit, leur enseigner la vertu comme les pères font aux enfants encore privés de raison. Il est donc parfaitement certain qu'ils ignoraient l'excellence de la vertu et la véritable béatitude. Jonas put échapper à la présence de Dieu, ce qui fait croire qu'il pensait aussi que Dieu avait laissé le soin de toutes les contrées placées hors de la Judée à d'autres puissances déléguées par lui. Certes, personne dans l'Ancien Testament n'a mieux parlé de Dieu selon la raison que Salomon, dont les lumières naturelles surpassaient celles de tous les hommes de son temps. Aussi se crut-il supérieur à la loi, qui n'est faite effectivement que pour des hommes privés de raison et des lumières naturelles de l'entendement. Et il fit peu de cas des lois qui concernaient les rois, lesquelles se réduisaient principalement à trois principales. Voyez Deutéronome, chapitre 17, versets 16-17. Il viola même ces lois ouvertement, en quoi il fit une faute et montra un attachement à la volupté peu digne d'un philosophe, et enseigna que tous les biens de la fortune ne sont que vanité. Voyez l'Ecclésiaste. Que rien dans l'homme n'a plus de prix que l'entendement, et que la plus grande des punitions, c'est bien d'en être privé. Proverbe, chapitre 16, verset 23. Mais revenons au prophète et continuons de marquer les contrariétés qui se rencontrent dans leurs opinions. La différence des pensées d'Ézéchiel et de celles de Moïse a tellement frappé les rabbins, de qui nous tenons ceux des livres des prophètes qui nous sont restés, voyez le traité du sabbat, chapitre 1er, feuille 13, page 2, qu'ils ont balancé s'ils ne retrancheraient pas le livre d'Ézéchiel d'entre les canoniques. Ils l'auraient même entièrement supprimé, si un certain Ananias ne s'était chargé de l'expliquer, ce qu'il fit avec un grand zèle et des peines infinies, ainsi qu'on le raconte dans le livre cité plus haut. De quelle façon s'y prit-il ? C'est ce qu'on ne sait pas bien. Fit-il un simple commentaire qui s'est perdu depuis ? Ou y a-t-il la hardiesse de changer les propres paroles d'Ézéchiel et d'orner ses discours ? Quoi qu'il en soit, le chapitre 18 ne semble pas bien d'accord avec le verset 7 du chapitre 34 de l'Exode, ni avec les versets 18 du chapitre 32 de Jérémie, etc. Samuel croyait que Dieu, après avoir pris une résolution, ne s'en repentait jamais. Voyez Samuel, livre 1er, chapitre 15, verset 29. Car il dit à Saül, qui se repentait de sa faute et voulait supplier Dieu de lui accorder son pardon, que Dieu ne changerait pas le décret porté contre lui. Au contraire, il fut révélé à Jérémie, chapitre 18, verset 8-10, que Dieu, quand il avait pris un dessein favorable ou contraire à quelque nation, s'en repentait ensuite si, avant l'accomplissement de son décret, les hommes de cette nation changeaient pour dégénérer ou devenir meilleurs. Mais la doctrine de Joël, c'est que Dieu ne se repent que du tort qu'il a fait. Chapitre 2, verset 13. Enfin, il suit clairement du chapitre 4 de la Genèse, verset 7, que l'homme peut dompter les tentations de péché et bien agir. Dieu lui-même le déclare à Caïn qui, cependant, suivant l'écriture elle-même et le témoignage de Joseph, ne condompta jamais ses tentations. On trouve la même doctrine dans Jérémie, au chapitre cité plus haut, car il dit que Dieu se repent d'avoir porté un décret favorable ou contraire aux hommes quand ils veulent changer leur mœurs et leur manière de vivre. Or, c'est le principe ouvertement professé par Paul que les hommes n'ont d'empire sur les tentations de la chair que par l'élection de Dieu et par sa grâce. Voyez Épître aux Romains, chapitre 9, verset 10 et suivant. Puis, dans les chapitres 3, verset 5, 6, verset 19, où il attribue à Dieu la justice. Il se reprend et avertit qu'il ne parle ainsi qu'en homme et à cause de la fragilité de la chair. Il résulte donc avec une pleine évidence de l'ensemble des passages que nous avons cités, que Dieu a proportionné ses révélations à l'intelligence et aux opinions des prophètes, que les prophètes ont pu ignorer les choses qui touchent la spéculation et n'ont point rapport à la charité et à la pratique de la vie qui les ont effectivement ignorées, et ont eu sur ces objets les opinions contraires. Il ne faut donc pas leur demander la connaissance des choses naturelles et spirituelles. Il faut conclure au contraire que nous ne sommes tenus de croire aux prophètes que dans les choses qui sont l'objet et le fond de la révélation. En tout le reste, libre à chacun de croire ce qui lui plaît. Pour prendre encore un exemple, la révélation faite à Caïn nous apprend seulement que Dieu rappela Caïn à la vie véritable. C'est là en effet l'objet et le fond de cette révélation, et non pas de nous faire connaître la liberté de la volonté et le toucher aux questions philosophiques. Ainsi donc, bien que le libre arbitre soit appliqué dans les paroles et dans les raisons de l'avertissement donné à Caïn, il nous est permis d'admettre la doctrine contraire. Dieu ayant seulement voulu, dans ses paroles et dans ses raisons, se proportionner à l'intelligence de Caïn. C'est ainsi que l'objet de la révélation faite à Michée, c'est seulement d'apprendre à Michée le succès du combat d'Akab contre Aram. Voilà ce que nous sommes obligés de croire, mais hormis cela, tout ce que contient la révélation de Michée ne touche en rien à la foi, comme ce qui est dit de l'esprit de vérité et de l'esprit d'un mensonge, de l'armée céleste rangée de chaque côté de Dieu et les autres circonstances de cette prophétie. Et chacun peut croire là-dessus ce qui est plus ou moins d'accord avec sa raison. De même, Les raisons par lesquelles Dieu explique à Job sa puissance sur toute chose, s'il est vrai qu'il ne les lui ait révélées et que l'auteur du livre de Job, au lieu de nous faire un récit, ne s'amuse point, comme plusieurs l'ont cru, à orner ses propres idées, ses raisons, dis-je, doivent être considérées comme proportionnées à l'intelligence de Job, et non comme des raisons universelles destinées à convaincre tous les hommes. C'est encore ainsi qu'il faut prendre les raisons dont se sert le Christ pour convaincre les pharisiens d'ignorance et d'entêtement, et pour exhorter ses disciples à la vie véritable. Il est clair que le Christ accommode ici son discours aux opinions et aux principes de ceux qui l'écoutent. Ainsi, il dit aux pharisiens. Voyez Matthieu, chapitre 11, verset 26. Et si Satan chasse Satan, le voilà divisé contre soi-même. Comment donc son règne pourra-t-il se maintenir ? Le Christ veut ici convaincre les pharisiens par leurs propres principes, et non pas nous apprendre qu'il y a des démons et un règne des démons. De même, il dit à ses disciples, Matthieu, chapitre 18, verset 10, « Prenez garde de ne pas maîtriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges sont dans le ciel. » Le Christ n'a ici d'autre objet que d'apprendre à ses disciples à ne pas être superbes, à ne mépriser personne, et non pas à leur enseigner aucune des choses qu'il ajoute à ce conseil, afin de les mieux persuader. J'entends absolument de la même façon la doctrine et les signes des apôtres, et je ne crois pas nécessaire d'insister davantage sur ce point, car si je voulais citer tous les endroits de l'Écriture qui n'ont été écrits qu'en vue de l'homme et pour se mettre à sa portée, et qui ne peuvent être considérés comme des points de doctrine divine sans grand dommage pour la philosophie, je m'écarterais beaucoup de la règle de brièveté que je m'efforce de suivre. Qu'il me suffise donc d'avoir cité quelques passages et d'avoir touché les points les plus généraux, la curiosité du lecteur fera le reste. Les deux précédents chapitres sur les prophètes et les prophéties se rapporte étroitement à l'objet fondamental de ce traité, qui est de séparer la philosophie de la théologie. Mais n'ayant traité ces deux questions jusqu'à présent que d'une manière très générale, je veux me demander encore si le don de prophétie a été exclusivement propre aux Hébreux, ou s'il leur a été commun avec les autres nations, et en même temps, ce qu'il faut penser de la vocation des Hébreux. C'est l'objet du chapitre suivant.